suis Lakhdar Boumediene, marié, j'ai deux filles, Raj a 13 ans et Rahma a 9 ans. À plus de 7 ans, mon nom là-bas en Guantanamo, depuis le premier jour jusqu'à le 15 mai 2009, c'est 10005.
Votre numéro de matricule?
Oui, c'est 10005. C'est mon nom et mon prénom et mon adresse et tout.
Depuis le 15 mai 2009, date de mon arrivée à l'aéroport militaire en France, je suis un homme libre. Et maintenant, je me sens vraiment un être humain, appartenant à la catégorie des hommes libres, un homme au sens vrai du terme. Surtout depuis que j'ai retrouvé les êtres qui me sont les plus chers, ma femme et mes deux filles, que je n'avais pas vues depuis 7 ans et quelques mois.
Il n'a que 43 ans, mais il a le visage marqué, les traits creusés, les cheveux poivre et sel. Amaigri, très affaibli après plus de 2 ans de grève de la faim pour clamer son innocence, il raconte son calvaire et les plus de 7 ans de sa vie qui lui ont été confisqués dans des conditions extrêmes, jusque dans l'avion qui l'a ramené le 15 mai de Guantanamo à Paris.
Imaginez quelqu'un, prisonnier pendant plus de 7 ans, qui se retrouve enfin libre, sans menottes. Je ne me sens libre que depuis la fin de ce voyage qui m'a emmené de Guantanamo à Paris. Car ce voyage s'est déroulé dans des conditions très difficiles. J'avais les pieds attachés, les mains menottées, je n'ai pas mangé, pas bu, et le vol a duré près de 9 heures, sans escale.
Depuis décembre 2006, il était en grève de la faim jusqu'à son arrivée à Paris.
La première raison qui m'a poussé à faire la grève de la faim, ce sont les mauvais traitements. En plus, dès mon arrivée à Guantanamo, je leur ai dit que j'étais innocent. Et d'ailleurs, ceux qui menaient les interrogatoires me disaient « Ton cas est politique, tu n'es pas un terroriste ». Malgré cela, les mauvais traitements devenaient de plus en plus durs, de plus en plus insupportables. Surtout en 2006, après la mort de 3 personnes en détention. Je n'avais donc pas d'autre choix que d'entamer une grève de la faim.
À son arrivée à Paris, Lakhdar Boumediene ne pesait plus que 56 kilos, alors qu'il en pesait 73 avant sa grève de la faim. Malgré son état d'extrême faiblesse et les mauvais traitements qu'il a subis, son avocat en France, David Grein-Gewirtz, a été surpris lorsqu'il l'a vu descendre de l'avion sur le tarmac de l'aéroport militaire près de Paris.
À sa descente de l'avion, donc on a attendu un homme meurtri, très affaibli. On n'était pas certain qu'il serait en mesure de marcher. Et finalement, boitant, il a quand même réussi à, seul, de lui-même, descendre de l'avion et à rejoindre le bus qu'il emmenait à la base. Et ça a été un moment fort, surtout de ses retrouvailles avec ses petites filles et sa femme.
Le parcours de Lakhdar Boumediene à Guantanamo dure plus de 7 ans. Lorsqu'il arrive sur la base américaine de l'île de Cuba en janvier 2002, il se trouve parmi les premiers détenus considérés comme ennemis combattants par les Américains.
Les 3 premiers mois ont été très très pénibles. Nous étions emprisonnés dans un camp appelé X-Ray, avec des grillages et des planches en guise de toit. On nous a donné à chacun 2 bidons, un pour l'eau, l'autre pour les toilettes, et on nous les changeait une fois par jour seulement. Alors qu'il faisait très chaud, jusqu'à 38 degrés, c'était très pénible. Il me posait essentiellement 2 questions, une sur le fonctionnement des organisations caritatives et la deuxième sur les Arabes qui vivaient en Bosnie-Herzégovine.
Comment se passaient les interrogatoires ?
Avant 2003, lors de ces séances qui pouvaient durer 5 heures, je pouvais m'exprimer, je leur ai raconté ma vie, depuis ma naissance jusqu'à mon arrivée à Guantanamo, les gens que j'avais connus en Bosnie-Herzégovine. Et puis subitement, en février-mars 2003, les interrogatoires sont devenus très durs, très violents. Ça a été le début de la torture.
« في 2003 يعني فجأة يعني يأتوني بالليل من الساعة 12 في الليل إلى الساعة 5 ونصف إلى السادسة الصباح.
C'est devenu très douloureux. On m'interrogeait de minuit à 6 heures du matin, puis de 13 heures à 18 heures. Pour protester contre ces tortures, j'ai commencé ma grève de la faim. Mais les séances ont tout de même continué. Ils m'emmenaient à l'hôpital pour me donner des traitements, pour pouvoir continuer à m'interroger. Il y a même eu des séances de torture alors que j'étais très faible. Ils me mettaient un soldat de chaque côté pour me soutenir et me faisait courir exprès. Mais comme j'étais trop faible, mes pieds traînaient par terre et étaient tout ensanglantés. Quand les soldats me ramenaient dans ma cellule, mes pieds, mes chevilles et mes genoux étaient en sang, car ils cognaient contre les escaliers. Mais tout ça, ça ne les dérangeait pas du tout. Au septième jour, le médecin m'a demandé d'arrêter ma grève de la faim, sinon ils allaient me nourrir de force. Le lendemain, lorsqu'ils m'ont ramené à la clinique, les militaires et le médecin se sont fait des signes de connivence pour m'injecter le sérum de force. Et au lieu de le diffuser normalement dans la veine, ils se sont amusés à m'enfoncer la seringue sur les os et les muscles de l'avant-bras. Et un quart d'heure après ce jeu, une infirmière est entrée dans la salle et elle m'a injecté le sérum dans la veine.
Après 10-15 minutes, j'ai mon mari, la nurse.
En décembre 2006, une cinquantaine de détenus ont commencé une grève de la faim. Pour l'Agdar Boumediene, les conditions se sont encore dégradées. L'attitude des soldats s'est durcie.
Oui, ils considéraient que, comme j'étais en grève de la faim, je ne pouvais plus parler. Et pour eux, l'important, c'était que je leur parle, de tout et de rien, mais que je leur parle. La preuve, c'est que le même médecin est venu la nuit pendant une séance d'interrogatoire. Il a vérifié mes oreilles, mes yeux et mon pouls. Et il a dit à ceux qui menaient l'interrogatoire, « C'est bon, vous pouvez continuer. »
Pendant 16 jours, la même situation, 16 jours. La situation ne change jamais, la même situation. En 2004, j'ai eu les avocats.
J'ai vu mes avocats en juillet ou en août 2004, mais ça n'a rien changé et les mauvais traitements étaient de plus en plus violents. Les visites du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ne changeaient rien du tout. Un simple soldat pouvait dire à la personne du CICR, toi, tu t'assieds là-bas et tu ne parles pas. Donc leur présence ne changeait pas grand-chose et n'avait pas d'impact.
Les avocats américains de l'Agdar Boumediene ont pu obtenir que s'applique le processus d'habeas corpus, un système qui permet qu'un juge fédéral se prononce sur la légalité ou non de sa détention. La procédure Boumediene contre Bush a fait jurisprudence. Et le 2 novembre 2008, le juge Richard Leon a estimé que les accusations étaient sans fondement. Il a ordonné la libération immédiate de l'Agdar Boumediene. Ce sont 7 ans de détentions arbitraires.
Ce que je veux maintenant, c'est oublier ce cauchemar et vivre en paix avec ma famille. Vis-à-vis de l'administration américaine responsable de mon enfermement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai problème avec 4 personnes. Ils sont fous et stupides. George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et le procureur général Alberto González.
George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, González, le مدعي العام. قل انا ما اعرف ماذا اعمل انا ما عندي اي شيء اعمله.
Et vous voulez porter plainte par exemple?
انا هدفي الوحيد اني اتابعهم قضائيا يعني حتى ولو بعد 100 سنه.
Oui, ce que je veux, c'est porter plainte contre ces 4 personnes, même si ça doit prendre plus de 100 ans. Je ne sais pas si je réussirai, mais je vais tout de même le faire, avec l'aide de mes avocats américains à Boston.
Est-ce que vous avez reçu des excuses de la part du gouvernement américain après votre demande de libération et mise en liberté par un juge fédéral ?
En guise d'excuse, on m'a confisqué toutes mes affaires et on ne m'a rien restitué. Mon passeport algérien, ma carte d'identité algérienne. Ils m'ont aussi pris ma bague, qui était l'une des choses à laquelle je tenais le plus, ainsi que mes diplômes et mes certificats. Voilà les excuses des autorités américaines.
Pourquoi finalement vous pensez que les autorités américaines ont eu des soupçons à votre égard ? Peut-être à cause de votre parcours, parce que vous avez quitté l'Algérie en 90, que vous êtes allé au Pakistan, puis au Yémen et en Albanie ?
Sincèrement, je ne le sais pas. Lorsque je suis parti au Pakistan, j'étais enseignant. Puis je suis allé au Yémen pour chercher du travail. Là, j'en ai profité pour suivre des cours de français à l'université et au centre culturel français. Et puis je suis parti en Albanie et par la suite en Bosnie-Herzégovine, où j'ai travaillé pour le Croissant Rouge. Donc je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis dans cette catégorie-là. Pourquoi je suis rentré dans ce cauchemar, je ne le sais pas.
Et puis les brimades, les humiliations, le racisme et les discriminations, rien de tout cela n'a changé non plus, d'après Lakhdar Boumediene, qui a assisté à des scènes qui l'ont particulièrement choqué.
Le cas des 17 Ouïghours, de l'Algérien Saber Lamar, et puis celui du Tchadien Mohamed El Gharani, un juge l'a innocenté lui aussi. Malgré cela, il a été puni au camp numéro 3. Il est resté isolé et il a subi régulièrement des insultes racistes. Les soldats le traitaient de sale nègre. Ils disent qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis. Mais moi, j'ai vu de mes propres yeux un soldat traiter le Tchadien Mohamed El Gharani de sale nègre. Ce Tchadien n'avait que 14 ans lorsqu'ils l'ont capturé. Maintenant, il en a 21. Il a vécu un tiers de sa vie dans l'humiliation, à Guantanamo, dans l'injustice, traité comme un moins que rien.
Pour accélérer la fermeture du camp de Guantanamo, les États-Unis ont demandé à l'Union européenne d'accepter sur leur sol des prisonniers dits « libérables » qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays où ils risqueraient d'être torturés. C'est la France qui, la première, a ouvert sa porte à Lakhdar Boumediene le 15 mai dernier, comme l'explique son avocat David Rengewirtz.
Lakhdar Boumediene, donc, effectivement, a souhaité venir en France car il a des attaches culturelles en France fortes, des attaches familiales. Il connaît le français, il connaît la culture française, une partie importante de sa famille vit en France. C'était un choix donc logique, c'était aussi un choix du cœur. Et ça a été merveilleux pour lui lorsqu'il est arrivé en France et que son rêve s'est concrétisé. Maintenant, pour son insertion, je dirais que ses mots à lui, c'est d'être un homme normal, de réapprendre à vivre comme tout le monde. C'est un peu son leitmotiv, qu'on lui laisse cette possibilité de suivre une formation, de trouver un travail, de s'insérer, et avec sa femme et ses deux filles, de vivre familialement et sereinement en France.
Avec un visa, donc, qui lui permette, effectivement, de travailler et de rester sur une longue période, donc.
Tout à fait, d'obtenir un visa ou un titre de séjour qui lui permette de rester en France durablement.
Pourquoi la France et pas la Bosnie-Herzégovine dont il avait la nationalité ? Parce que ce pays qui l'avait livré aux Américains en 2002 l'a déchu de sa nationalité bosnienne fin 2008. L'Algérie, les négociations étaient trop longues. Il devait rapidement trouver un pays d'accueil.
Mon seul objectif, c'était de retrouver ma femme et mes enfants. Si on m'avait demandé d'aller les voir sur la Lune, je serais allé sur la Lune.
Ce qui l'a aidé à tenir pendant toutes ces années par la pensée, ce sont sa femme, Abbasia, et ses deux filles, Rama et Raja. Leurs retrouvailles, enfin, plus de 7 ans après, ont été un moment d'intense bonheur.
C'est un moment que je n'oublierai jamais de ma vie. La dernière fois que j'avais vu ma petite dernière, Rama, elle n'avait que 18 mois, et je l'ai retrouvée alors qu'elle avait déjà 9 ans. Au début, lorsqu'elle m'a vu, elle a dit « C'est un monsieur assez âgé que je vois là. Ce n'est pas lui, mon papa. » Ma femme disait la même chose. « Ce n'est pas mon mari. Ce monsieur qui est en face de moi est beaucoup plus âgé. » Mais après, lorsque nous nous sommes approchés, les premiers moments n'ont été que des larmes. On pleurait tous les quatre. Maintenant, petit à petit, on essaie de se rappeler des moments de vie en commun. Et je pense qu'un jour, on arrivera à oublier ce cauchemar.
Grand Grand reportage avec le témoignage de Lakhdar Boumediene, 7 ans et demi dans l'enfer de Guantanamo. Entretien Véronique Guémard, traduction Aïcha Saoud de RMC Doualia, réalisation Marc Minatel. Thank you.